9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Poutine, nouveau maître du jeu au Proche-Orient. La Russie étend encore son influence. Jusqu'où ? Et l'OTAN a-t-elle encore un avenir ? Les dernières leçons de la crise syrienne, dans un instant avec Bruno Tertrède de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Autre puissance mondiale, Facebook, dont le créateur Zuckerberg a passé un très mauvais moment cette semaine devant le Congrès américain, devant des élus démocrates qui lui reprochent de propager de la désinformation et rêve de démanteler le réseau aux 2,5 milliards d'abonnés, de le couper en morceaux. Zuckerberg en joue démon. Julien Lebotte, qui vient de lui consacrer un livre, sera avec nous. Au sommaire également, un mythe parfumé, le numéro 5 de Chanel, et un parfum de scandale pour sa créatrice Coco Chanel, qui s'est compromis avec les nazis pour enlever à ses associés juifs la propriété du numéro 5. Révélation de la journaliste Marie-Dominique Lelièvre. Enfin, le jaune, l'histoire d'une couleur toujours mal aimée, mais qu'une partie de la France a adoptée avec les gilets jaunes. L'historien Michel Pastoureau nous raconte le jaune à travers les âges et c'est passionnant.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Des bases américaines désertées à la hâte, puis bombardées par des avions de l'US Air Force pour éviter le pillage par l'ennemi de secrets militaires. Des bases auprès desquelles patrouillent aujourd'hui des blindés arborant des drapeaux russes. Bonjour Bruno Tertrède.
Bonjour.
Directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image, l'une des images symboles du chamboule-tout qui vient d'avoir lieu au nord de la Syrie ?
Cette image est extrêmement forte, d'autant plus que c'est quand même la troisième fois en quelques mois que les Américains se montrent non fiables envers leurs alliés. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques semaines lorsque les installations pétrolières saoudiennes ont été bombardées, ont été attaquées plutôt par des drones téléguidés par l'Iran. Eh bien, l'Amérique n'a rien fait. C'est quand même extraordinaire, en tout cas du point de vue de la région. Je peux vous dire que ça a été écouté. Donc, on lâche les Kurdes, on a lâché les Saoudiens, et pour les Turcs aussi, il y a quand même un menu souci, c'est que la Turquie n'a plus confiance dans l'Amérique et l'Amérique n'a plus confiance dans la Turquie. Il y a vraiment un énorme problème de crédibilité de l'Amérique au Moyen-Orient aujourd'hui.
On peut dire que Donald Trump a changé des règles du jeu qui étaient en vigueur depuis 70 ans.
Non, j'irai pas jusque-là, d'autant plus que vous dites 70 ans. Ça concerne pas nécessairement l'OTAN. Ça concerne les alliances de l'Amérique en général, pas seulement l'OTAN. Mais il y avait déjà eu des problèmes avec Obama.
Il n'a pas inventé le désengagement américain.
Exactement,
Trump.
Il n'a pas inventé la crise de confiance dans l'Amérique comme protecteur.
Mais c'était moins foutraque et moins imprévisible, on peut dire.
On peut dire ça. C'est-à-dire, Obama était un intellectuel, donc son désengagement était annoncé et beaucoup plus prévisible. Non, je crois que là, on est dans une crise de la crédibilité américaine, pas seulement au Moyen-Orient. Et on va en parler tout à l'heure, j'imagine, c'est Poutine qui ramasse les cartes derrière.
On en parle tout de suite.
Et si jamais Trump était réélu pour 4 ans, là je crois qu'on passerait vraiment dans une autre époque, dans une autre ère. C'est encore réparable d'une certaine manière. On ne sait pas la première fois qu'on a des doutes sur la crédibilité, de la protection, de la garantie, de l'alliance américaine. Si Trump est réélu, alors là je pense qu'on passera vraiment dans un autre monde.
Côté russe, en revanche... succès complet, triomphe même quand on lit la presse russe.
Ah bah quand on lit la presse russe, c'est toujours un triomphe avec Poutine.
Oui,
ça,
d'accord,
c'est sûr,
mais
ça,
là,
ça.
Celui-là est assez éclatant. Succès que peu prédisait quand il y a 4 ans, Poutine est venu à la rescousse de Bachar al-Assad en envoyant son armée en Syrie.
Oui, c'est vrai. On pouvait prévoir que la Russie voulait se montrer comme un partenaire fiable au Moyen-Orient, contrairement justement à l'Amérique, parce que c'est ce que Poutine adore faire et il a raison. C'est-à-dire, regardez, l'Amérique n'est pas fiable, alors que moi, je ne laisse jamais tomber les copains. Surtout si ce sont des hommes forts comme moi, en l'espèce Bachar el-Assad, la Syrie. Moi, je suis fiable, l'Amérique n'est pas fiable. C'est un jeu qu'il joue magnifiquement et l'Amérique l'aide à le jouer, justement. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est que la Russie s'installe dans la durée de manière massive au Moyen-Orient, en Syrie. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça a été... ce n'est pas un changement de portage, là, pour le coup, de la politique russe dans la région. La Russie a toujours été alliée à la Syrie. Mais c'est vrai que cette installation massive militaire dans la région est quelque chose de nouveau et assez inattendu. Ouais. Et
aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la Russie de Poutine est devenue au Moyen-Orient ce qu'étaient les États-Unis il y a 10 ans, c'est-à-dire le maître du jeu ?
Non. Alors, Maître du jeu, je ne sais pas, parce que d'abord le jeu est tellement compliqué qu'il peut pas avoir un seul maître, oui. Premièrement. Je ne vois pas la Russie stabiliser, réconcilier les partis, faire la transition politique en Syrie. Attention, hein. Oui. La Russie est très forte quand il s'agit justement d'exercer la puissance au sens militaire du terme, beaucoup moins lorsqu'il s'agit de faire de la médiation, oui, ou de la réconciliation
politique. Même si Poutine politique. Était en Arabie Saoudite et aux Émirats il y a quelques jours.
Oui, mais alors justement, regardez, il est en Arabie Saoudite. C'est vrai que c'était une visite très importante, mais ils ne remplacent pas l'Amérique. Ils sont où les radars russes, les bases, les soldats russes, tout ce qui lie deux pays militairement comme l'Amérique et l'Arabie Saoudite depuis 1945. Donc attention, il n'y a pas de renversement total. Poutine n'est pas en train de remplacer l'Amérique, mais il montre à tous les pays de la région et du coup à travers le monde aussi, parce que ce sont des messages politiques qui s'adressent au monde entier, il y a une alternative à l'Amérique, même si je pense que la Russie n'a pas la capacité économique et militaire de remplacer les États-Unis. Il y a le nombre de bases et d'alliances, de bases militaires, par exemple, à l'extérieur du territoire russe, est extraordinairement limité. C'est quelques-unes, deux ou trois. L'Amérique, les bases principales, c'est 150 à peu près. Donc attention, on n'est pas dans un jeu de vases communicants, un pays qui remplace l'autre, mais on est quand même dans quelque chose d'important.
On rappelle que le rapport entre les budgets militaires des États-Unis et de la Russie, c'est un rapport de 1 à 15. Bruno Tertrais, on continue de parler avec vous de ce qui se passe, nouvel ordre mondial ou nouvel ordre régional ou pas d'ordre du tout, et de l'avenir de l'OTAN aussi.
Europe 1. Merci de nous rejoindre. C'est arrivé cette semaine. Continue jusqu'à 10h sur Europe 1 avec vous, Patrick Cohen.
Et avec Bruno Tertrais de la Fondation pour la Recherche Stratégique, dans un peu plus d'un mois, un sommet de chefs d'État doit célébrer les 70 ans du traité de l'Atlantique Nord et la naissance de l'OTAN qui n'a jamais paru aussi affaibli et divisé. Bruno Tertrais, le triomphe de Poutine, il tient aussi à la division des Européens, c'est l'un de ses objectifs, et à la fracture de l'OTAN.
À la division de la famille transatlantique. On a quand même aujourd'hui un énorme problème, ça ne s'est jamais vu depuis 1949, depuis la signature du traité de l'Atlantique Nord, traité fondateur de l'Alliance. On a un problème majeur avec deux des principaux alliés. Un, les États-Unis, deux, la Turquie. Deux problèmes différents, mais comme ça fait partie des deux plus grandes puissances militaires de l'Alliance, surtout l'Amérique, c'est quand même un vrai sujet. On ne sait plus si on peut encore se fier à l'Amérique de Trump, et on a des doutes de plus en plus importants sur la réalité de notre alliance avec la Turquie. Vous savez, au sein de l'OTAN, on est censé avoir soit les mêmes intérêts, soit les mêmes valeurs, de préférence les deux, mais au moins l'un des deux. Avec la Turquie d'Erdogan, je crois que nous n'avons pas les mêmes valeurs et de moins en moins les mêmes intérêts. Donc c'est un vrai sujet. Pensez quand même aussi que la Turquie d'Erdogan, c'est un pays qui a acheté des défenses antimissiles russes, pardon, défenses antiaériennes russes, pour se protéger contre une éventuelle attaque militaire américaine. C'est insensé. C'est après le coup d'État de 2016, il a eu peur que, en gros, l'Amérique l'attaque.
Et c'est la seule chose apparemment qui fâche aujourd'hui l'administration américaine. Hein. Pompeo a particulièrement insisté sur ce point, sur la vente du système de défense.
C'est vrai, parce que les Américains disent en même temps, du coup, attendez, on ne va pas vous vendre nos propres chasseurs bombardiers de 5e génération, parce que la Russie pourrait apprendre tout donc de nos chasseurs si on met des intercepteurs russes en face. Donc c'est complètement baroque. Voilà, donc on a un problème Trump, on a un problème Erdogan. Ça va être effectivement assez folklore, ce 70e anniversaire, début décembre à Londres, présidé par un Boris Johnson, donc, on ne sait pas du tout où il sera. Donc ça va être complètement baroque.
L'OTAN a-t-elle encore un avenir? Est-ce qu'il faut songer à redéfinir un système d'alliance ou des systèmes d'alliance?
Alors l'OTAN l'a intégré de nombreuses fois depuis 1949, donc attention. Hein, c'est pas une organisation solide, elle va pas disparaître du jour au lendemain, mais je crois en revanche qu'il faut là maintenant se préparer, nous Européens, au scénario de la fin de l'OTAN, en se disant, si cette alliance n'est plus là dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois ou même dans 10 ans, qu'est-ce qu'on fait, nous, qu'on soit pas surpris si Trump réélu se retire de l'alliance? Qu'est-ce qu'on fait? On va être tétanisé. Alors, nous Français, on a un avantage, c'est que le récit selon lequel finalement l'Amérique n'est pas forcément un protecteur fiable sur la durée, c'est un récit qu'on tient depuis 1958. Donc on sera les mieux préparés intellectuellement à ça. Mais il faut vraiment se préparer à ce scénario et voir ce qu'on fait si demain, surtout si Trump est réélu, l'OTAN n'existe pas. Ça va être compliqué. Hein. Nos partenaires allemands, par exemple, ne sont pas prêts à ça. Mmh. Pour eux, ils sont encore dans la logique du grand frère américain sur lequel on compte en permanence. Et je crois que la France a vraiment une carte à jouer. Elle aura une responsabilité, je pense, importante dans la redéfinition de ce système d'alliance en Europe si jamais l'OTAN s'effondre.
La politique internationale de Trump, elle est la plupart du temps considérée comme égocentrée et imprévisible. Mais certains analystes font remarquer que toutes ces décisions, ou en tout cas la plupart de ces décisions de politique internationale, aboutissent, débouchent sur un succès russe ou sur une extension de l'influence russe et de Poutine.
Et d'ailleurs, certains ont conclu aux États-Unis que ça prouve vraiment qu'il y a quelque chose de curieux dans sa relation avec Poutine et avec la Russie.
Vous en pensez quoi, vous ?
Non, je pense qu'il se moque de ce qu'il se passe. Après, c'est après moi le déluge, ouais. Vous voyez ? Et or, le déluge, c'est-à-dire Poutine est très content d'arriver. Ouais. Vous voyez ? Non, je ne pense pas que ce soit une connivence entre Trump et Poutine, mais je pense que Poutine est extrêmement fort pour faire des stratégies d'opportunisme et pour saisir les occasions quand celles-ci se présentent. De même que Trump n'a pas un grand plan autre que appliquer son programme électoral, le mur notamment, etc. Mais Poutine n'a pas un grand plan pour la Russie. Il a une vision d'ensemble et puis après il fait de la tactique, c'est-à-dire qu'il va se saisir des opportunités quand elles se présentent. Il est très bon pour ça et avec l'Amérique, il a un parfait répondant d'une certaine manière. Donc voilà, c'est plus ça qu'une ouais, connivence entre les deux hommes.
Enfin, c'est des tactiques qui ratent, hein, quand on voit le dossier nord-coréen par exemple, sur lequel Poutine a tout misé.
Non, Poutine n'a pas misé grand-chose, c'est plutôt Trump qui a misé.
Trump, pardon. Trump.
Ou alors j'ai raté un épisode.
Non, c'est moi qui me trompe.
Non, bien sûr, attendez, il faut quand même reconnaître que la plupart des initiatives diplomatiques de Trump sont des échecs, hein, faut quand même être clair. La Corée du Nord, c'est un désastre. L'Iran, ça ne marche pas. La consolidation de la relation avec l'Arabie Saoudite qu'il promettait, c'est la catastrophe. Avec la Chine, il y a quand même un rapport de force qui est établi, mais de manière très imprévisible aussi. Alors, parfois, il faut être un petit peu imprévisible. Moi, je fais crédit à Trump d'une seule chose, d'avoir apporté un peu d'imprévisibilité dans la perception de l'Amérique et de l'Occident, qui on est toujours perçu comme trop prévisible. Donc ça, c'est bien à petite dose. Le problème, c'est qu'avec Trump, c'est des doses de cheval. Donc ça, c'est pas très bon. Et je pense qu'avec la Chine, dont on n'a pas parlé, c'est aussi quelque chose dont il joue, l'imprévisibilité dans la relation. On a clairement une montée en puissance là, qui est en train de dominer tout le reste de l'échiquier international, de la relation américano-chinoise qui se développe maintenant à travers un prisme de containment, de confinement de la puissance chinoise. Mais la relation commerciale entre les deux pays reste soumise aux caprices de Trump. Et là, je crois que ça n'est bon ni pour l'économie américaine, ni surtout pour les économies mondiales, donc l'économie européenne également.
Merci Bruno Tertrais de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Dernier livre, La Revanche de l'Histoire, qui vient de paraître en version poche chez Odile Jacob. Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, Facebook bousculé, contesté aux États-Unis. Que veut Zuckerberg ? On en parle avec le journaliste Julien Lebotte.
Europe 1. Excellent week-end, chaque samedi de 9h à 10h. Vous êtes avec Patrick Cohen et vous écoutez Cette arrivée cette semaine sur Europe 1.
Ils sont nombreux à rêver aujourd'hui de casser Facebook, de démanteler l'entreprise aux 2,5 milliards d'abonnés. L'une des candidates démocrates pour la Maison-Blanche, Elizabeth Warren, fait campagne en ce sens. Le ministère américain de la Justice a lancé une vaste enquête antitrust et dans 45 États américains, désormais, Facebook fait l'objet d'investigations sur sa gestion des données personnelles et ses pratiques commerciales. Mais en attendant, le réseau social qui se confond avec son créateur et président, Mark Zuckerberg, n'a jamais été aussi puissant, prospère et influent. Bonjour Julien Lebotte.
Bonjour Patrick Cohen.
Journaliste spécialisé ou branché numérique, vous publiez un passionnant « Dans la tête de Mark Zuckerberg » chez Solin Actes Sud, qui nous donne à comprendre comment on est passé en 15 ans d'un trombinoscope qui servait à draguer des filles sur les campus, un réseau de contrôle et de surveillance inédit dans l'histoire de l'humanité, et surtout comment fonctionne et comment résonne celui qui a enfanté ce monstre qu'il a conçu de bout en bout. L'une des clés, ce que vous écrivez, Julien Lebotte, c'est que fondamentalement, Zuckerberg est resté un hacker. En tout cas, il a la philosophie des hackers.
Alors, je pense qu'il a une interprétation de ce qu'on pourrait appeler l'éthique des hackers, c'est-à-dire que pour lui, il faut que l'information circule. Et quand on dit information, il a une vision très, très ouverte du concept d'information. C'est-à-dire que les données personnelles, les données privées, pour lui, ça fait partie de l'information. Et il y a cette, je pense, cette conviction très profonde que par la grâce de la technologie et par l'heureuse rencontre de toutes nos données, de tous nos speeches, de tous nos discours sur une plateforme comme Facebook, au bout du compte, l'humanité sera réconciliée.
Information libre, sans restriction, sans entrave, sans régulation. Le hacker, c'est aussi quelqu'un qui se méfie des autorités, par principe. Hein.
Alors, de moins en moins, maintenant qu'il a senti qu'il fallait faire quelque chose par rapport à la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'on a vu depuis l'année dernière un certain nombre d'appels presque au secours à dire « s'il vous plaît, régulateur du monde entier, prenez acte du fait que j'ai besoin de vous pour réguler un peu ». Donc il dit « non, moi je suis le chef de la tech ». Vous, vous êtes responsable de ce qui doit être et de ce qui peut être dit. Et donc, on a un jeu très étrange où à la fois, il sait qu'il est devenu et qu'il a fabriqué la place publique, mais il ne veut pas endosser la responsabilité, alors ou éditoriale ou juridique. En tout cas, il ne veut pas organiser, distribuer, hiérarchiser le monde. Et pourtant, c'est ce que sa plateforme fait.
Évidemment. Un type Zuckerberg intelligent, avec évidemment, sinon il ne serait pas arrivé là, l'esprit de compétition poussé à l'extrême, pas à l'aise avec les codes sociaux, pas souvent à l'aise en public, ça se voit lors de ses prises de parole officielles.
C'est très impressionnant, c'est-à-dire qu'on a un personnage un peu robotique, il le dit lui-même, et en réalité il est très à l'aise quand il est avec ses équipes à raconter voilà comment on va résoudre nos problèmes, voilà ce qu'on va faire, voilà l'horizon. Mais devant les médias, incapable d'être éloquent, clair, enfin voilà.
Et cette semaine, on l'a vu encore devant le Congrès américain, en l'occurrence devant la commission des services financiers où il venait défendre son projet de monnaie numérique, la Libra, il a passé de très mauvais moments, notamment quand l'étoile montante des démocrates, Alexandria Ocasio-Cortez, a interrogé Zuckerberg sur les campagnes de désinformation politique qui sont menées sur Facebook.
Est-ce que je pourrais diffuser une publicité ciblant les républicains aux élections primaires qui dirait qu'ils ont voté le Green New Deal ?
Pardon, vous pouvez répéter ?
Serait-il possible que je diffuse une publicité sur Facebook ciblant les républicains pendant les élections primaires, disant qu'ils ont voté pour le Green New Deal? Si vous ne vérifiez pas les infos des publicités politiques, j'essaie juste de comprendre les règles ici. Qu'est-ce qui est autorisé?
Je ne connais pas la réponse à ça comme ça.
Donc vous ne savez pas s'il serait possible de faire ça?
Je pense que oui, probablement.
Et vous n'enlèverez pas les mensonges ou vous les enlèverez? C'est une question simple. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Je ne parle pas de communication, je parle de vraies désinformations.
Dans une démocratie, je crois que les gens doivent être capables de voir eux-mêmes pour quel homme politique ils veulent voter.
Zuckerberg qui bafouille, qui semble déstabilisé par des questions simples. Pourquoi, Julien Lebotte ?
Parce que la machine qu'il a construite, elle est extraordinairement compliquée. Il y a des façons de rendre visibles des contenus qui reposent sur tout un tas de mécaniques très compliquées. Et par exemple, en l'occurrence, les républicains ont extrêmement bien compris comment en fait faire hurler, brailler cette machine pour cibler les audiences qui les intéressent.
C'est le scandale Cambridge Analytica, on rappelle, société britannique qui avait utilisé les données personnelles de dizaines de millions d'usagers de Facebook pour influer sur le vote de 2016 en faveur de Trump. En fait, Zuckerberg, il parle souvent, écrivez-vous, comme si Facebook était neutre, comme si c'était Internet. Or, Facebook n'est pas neutre, évidemment.
C'est exactement ça. Je pense qu'il y a un immense problème de une méconception incroyable. C'est-à-dire que pour lui, en fait, Facebook est venu prendre de plus en plus de place jusqu'à devenir presque Internet par endroit. Et c'est vrai en Birmanie, c'est vrai sur certains territoires. Et d'autre part, il s'est rendu compte qu'il était très, très important pour la pérennité de son entreprise de se présenter comme une entreprise de la tech. Sous-entendu, nous sommes un ensemble de tuyaux. On ne s'occupe pas de ce qui passe à l'intérieur de ces tuyaux.
C'est clairement sa philosophie. Il l'a exposé il y a une semaine devant les étudiants de l'université de Georgetown à Washington. Mieux vaut plus de liberté d'expression que pas assez. Et c'est aux gens, c'est aux citoyens de décider ce qui est crédible, pas aux entreprises de la tech. Donc il ne veut pas intervenir sur les contenus. Sauf que les contenus, ils se monétisent. Facebook, c'est devenu une gigantesque, sans doute la plus grande, régie publicitaire du monde. C'est ça, Julien Lebotte?
Exactement. Alors, au risque de vous surprendre, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire que c'est pas à la tech d'être l'arbitre de la vérité. Le seul problème, c'est qu'il dit « nous ne sommes pas des éditeurs » en un certain sens, sauf que sa mécanique, elle ordonnance les contenus, elle hiérarchise l'information ou la désinformation, et le problème, précisément, il est là.
Immense régie publicitaire, je disais, les Les revenus sont encore en croissance aujourd'hui.
Les utilisateurs continuent d'arriver sur Facebook ou sur la famille d'applications, c'est-à-dire Instagram, WhatsApp et Messenger. Et d'autre part, la régie publicitaire se porte plutôt très très bien. C'est-à-dire que j'ai presque envie de vous dire que le fait que les gens s'écharpent sur Facebook n'est pas une mauvaise affaire pour les affaires de Facebook. Donc en fait, on a cette espèce de situation et de tension paradoxale. Facebook est considéré comme le lieu aujourd'hui où se cristallise la désinformation, la manipulation, etc. Mais dans le même temps, les affaires vont bien.
L'un de vos interlocuteurs, Julien Lebotte, explique que le monstre a échappé à son créateur. Maintenant, c'est la communauté des utilisateurs de Facebook qui dirige et que ce réseau est devenu hors de contrôle.
Il est inimaginable qu'une entreprise depuis la Californie, et même si elle dispose de 10, 20, 30 000 modérateurs partout dans le monde, il s'agit d'encadrer les discours de 2,7 milliards d'utilisateurs. Enfin, il n'est pas très compliqué et pas besoin d'être très bon en maths pour comprendre que c'est disproportionné.
Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, c'est dans la patrie du libéralisme, dans celle du free speech, c'est-à-dire la liberté de parole absolue. C'est le principe des États-Unis et c'est même l'un des articles de la Constitution américaine que les contre-feux sont les plus forts, les plus vifs. Je parlais tout à l'heure de cette enquête fédérale et des enquêtes qui sont coordonnées par un ensemble de procureurs généraux dans 45 États. Ça peut déboucher sur quelque chose d'assez rapidement
C'est très compliqué en fait de savoir ce qui va se passer. On sent en tout cas que Facebook c'est l'ennemi de tout le monde, mais c'est aussi l'ennemi utile. Dans le même temps, les Républicains savent très très bien utiliser Facebook pour leur publicité politique. Les démocrates, eux, ont fait aussi de Facebook un espèce de repoussoir qui leur permet de dire « Nous, nous allons rétablir l'équilibre et la démocratie américaine se portera mieux une fois qu'on aura démantelé cette entreprise. » Donc en fait, c'est très compliqué parce que Facebook est en train de cristalliser tout ce qui ne va pas dans les démocraties, enfin a fortiori en tout cas aux États-Unis. Et dans le même temps, il y a la menace de la Chine. Et donc l'un des alliés utiles et paradoxal de Mark Zuckerberg, et c'était tout l'enjeu de son discours sur le free speech, c'est de dire « Mais attendez, vous voulez nous démanteler ? Ok. Mais je vous rappelle que nous, on est nés aux États-Unis et qu'en face, TikTok et compagnie, toutes ces applications qui sont développées par des entreprises chinoises, elles sont en train d'arriver, de monter. Les plus jeunes sont en train de les utiliser. Et eux, ils n'ont pas la même conception du discours et de la liberté d'expression que nous. Donc réfléchissez bien avant de nous démanteler.
TikTok, c'est le grand réseau social de ByteDance chinois. Merci beaucoup, Julien Lebotte. Dans la tête de Mark Zuckerberg, ça paraît... Dans quelques jours, chez Solin Actes Sud. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, Coco Chanel et son meeting numéro 5, raconté par Marie-Dominique Lelière.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine, c'est tous les samedis jusqu'à 10h sur Europe 1. La suite avec vous, Patrick Cohen.
Elle a incarné l'élégance à la française et créé pour l'éternité un parfum mythique, le numéro 5 de Coco Chanel. On croyait tout connaître, y compris sa face noire, antisémitisme et collaboration avec l'occupant nazi. Et voici qu'une enquête sur ce numéro 5, une biographie non autorisée, comme le dit le titre, vient bousculer la légende. Non, ce parfum n'a pas été inventé pour les Français en 1921, mais pour les Russes 10 ans plus tôt. Son bouchon ne doit rien à la forme de la place Vendôme. Coco Chanel n'a pas été sauvée de l'épuration par son ami Churchill. Et en 1941, elle a tenté d'évincer ses associés juifs, les Wertheimer, en les désignant comme juifs dans une lettre signée de sa main. Bonjour Marie-Dominique Lelièvre.
Bonjour.
Cette lettre, vous l'a révélée, vous l'avez retrouvée aux archives nationales, dans les archives du Commissariat général aux questions juives, et elle vous sidère parce que ça fait des années que vous travaillez sur Chanel, vous avez de l'admiration pour elle, et vous ne la pensiez pas capable d'une telle infamie.
À vrai dire, en enquêtant sur cette période-là et en allant aux archives nationales, j'espérais vraiment... prouver que non, Chanel n'était pas antisémite. C'est très difficile d'admirer un personnage et d'accepter ses faces sombres. Et malheureusement, ce que contient ce dossier, c'est le dossier 945 dans la cote AJ38, ne laisse absolument aucun doute sur ce qu'elle a fait pendant cette période-là.
Je me porte acquéreur de la totalité des parfums Chanel qui étaient ou sont encore la propriété de juifs et que vous avez pour mission, dit-elle à l'administrateur, vous avez pour mission de céder à des sujets à rien. Voilà cette lettre.
Oui, alors cette lettre, elle est d'autant plus étonnante que, en effet, je travaille sur Chanel depuis longtemps, je n'ai jamais vu d'écrit de sa main. On pense d'ailleurs qu'elle, non pas qu'elle était illettrée, mais qu'elle écrivait très mal et qu'elle savait à peine écrire Alors, chez Chanel, la société Chanel d'aujourd'hui, quelqu'un m'avait dit, mais c'est pas elle qui l'a écrite. Chanel n'était pas antisémite, parce que, évidemment, c'est quelque chose d'un peu difficile à assumer. Chanel n'était pas antisémite, c'est son avocat, René de Chambrin.
Qui était le gendre Pierre Laval.
De Pierre Laval. Alors, certainement, enfin, le ton de la lettre montre que...
C'est juridique, oui.
C'est très juridique, que c'est une lettre rédigée par un juriste, mais... Il y a quelqu'un derrière, si vous voulez, il y a une demande et c'est vraiment une lettre de Gabriel Chanel, sans aucun doute. Oui.
Autre élément nouveau dans votre livre, Marie-Dominique Lelièvre, vous dressez un portrait terrifiant de son amant nazi de ces années-là, le baron von Dicklach, beau comme un dieu et maléfique comme un diable.
Oui, il était très dangereux, ce Dinklage. Alors, on savait déjà qu'elle avait eu une liaison avec un officier allemand durant la guerre, mais ce qu'on ignorait, c'était le passé de ce personnage. Et alors là, de ce point de vue, je n'ai pas été déçue, si on peut dire. En fait, Dinklage, c'est un Prussien qui est né dans une famille de militaires prussiens à la fin du 19e, qui, comme tous ces aristocrates, était très, très blessé, très meurtri par le traité de Versailles. Et lui, il avait rejoint les Corps francs, qui était une milice paramilitaire luttant contre le bolchevisme. C'était leur obsession, la lutte contre le bolchevisme. Alors, il a été suivi très, très tôt par les services français dirigés par Paul Paillol, qui ont mis au jour un certain nombre d'éléments sur lui qui sont assez accablants.
Et notamment le fait qu'il a participé très sûrement aux assassinats de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht à Berlin en 1919.
En effet, parce que Liebknecht et Rosa Luxembourg étaient les fondateurs du Parti communiste. Ils ont été allemands et ils ont été assassinés de manière extrêmement lâche par les Corps francs. On pense que Dinklage aurait peut-être participer en direct à ces assassinats. En tout cas, ce qui est avéré par les documents d'époque, c'est qu'il était un des procureurs qui a quasiment, qui a jugé un des assassins et qui l'a quasiment acquitté.
Il y a beaucoup d'autres éléments sur ce Dinklage. La star de votre livre, Marie-Dominique Lelièvre, 5, c'est le numéro 5, un bouquet floral aldéidé, l'un des premier de l'histoire du parfum, mais son créateur, Ernest Beau, a recyclé un jus qu'il avait inventé à Moscou pour la cour impériale.
Oui, alors l'histoire raconte que le 5 a été inventé, commandé par Coco Chanel en 1921 à Ernest Beau. En réalité, Ernest Beau, il travaillait pour une société russe à l'époque qui s'appelait Raleigh et qui était à Moscou. C'est un né français, mais né en Russie. Et il avait inventé en 1913 un parfum qui s'est appelé Bouquet de Catherine, qui était un parfum très, très novateur, très avant-gardiste, très, très aldéidé. Et ce parfum a été un flop pour des raisons historiques. Ensuite, en 19, il est venu, enfin après la Révolution russe et après la guerre, il est venu en France. Il est venu à Grasse, chez Raleigh. Tous les labos de Raleigh ont été ramenés en France. Et lorsque Gabriel Chanel a souhaité un parfum, il lui a proposé un parfum qu'il avait imaginé quelques années auparavant, auquel très certainement il tenait beaucoup et qui n'avait pas reçu un grand succès.
C'est toute la première partie de votre livre et c'est vraiment une enquête, comme une enquête policière dans les arcanes de la fabrication des parfums. Vous allez renifler le Raleigh numéro 1 pour vérifier que c'est bien conforme au numéro 5. Alors, il reste un produit extraordinaire, mais c'est l'extrait de parfum dont les 30 millilitres de numéro 5 nécessitent 12 roses de mai et 1000 fleurs de jasmin, toutes cueillies à Pégomas, près de Grasse. Mais c'est le seul parfum d'origine. Votre récit, Marie-Dominique Lelièvre, à la première personne, s'achève dans la boutique historique de Chanel, rue Cambon, où tout est griffé, où pas grand-chose ne vous plaît, sauf le numéro 5.
Le numéro 5, oui. En fait, oui, je venais chercher, enfin, je venais acheter quelque chose et je ne trouvais rien dans ce magasin parce que, enfin, aujourd'hui, il faut être clair, les grandes maisons de luxe, elles ne travaillent pas pour des clientes parisiennes, elles travaillent pour les Asiatiques. Et ce marché aime les choses très griffées, très, très ostentatoires. Et ces maisons, en fait, elles sont drivées par la finance et le marketing. Donc, il ne faut pas être surpris on ne trouve pas forcément des choses très séduisantes. Et du coup, à la fin, cherchant désespérément quelque chose, oui, j'ai demandé, enfin, c'était un hasard, ce n'était pas du tout prémédité, mais le numéro 5. Et ce qui est fabuleux, c'est que le seul dernier vrai produit de luxe qui existe encore rue Cambon, c'est le numéro 5, c'est l'extrait.
Parfum exceptionnel, opulent, ouais, complexe, dans un flacon simple et pauvre, c'était le souhait de, ouais, de Coco Chanel au départ, ouais, et c'est un peu le contraire qui régit aujourd'hui l'industrie du luxe. Merci beaucoup Marie-Dominique Lelièvre. 5, le numéro 5 de Chanel, biographie non autorisée, ça vient de paraître chez Stock. Dans un instant, le jaune par l'historien Michel Pastoureau.
Europe 1. De 9h à 10h le samedi sur Europe 1, vous écoutez C'est arrivé cette semaine et c'est avec Patrick Cohen.
Avec les gilets jaunes qui font encore quelques sorties en France chaque samedi, le jaune a fait son retour en politique. Pourtant, c'est la couleur des cocus, celle de la trahison, de la tromperie, couleur mal aimée, voire rejetée depuis le Moyen-Âge, alors qu'elle était presque sacrée chez les peuples de l'Antiquité. Voilà ce que nous raconte et nous montre dans un beau livre illustré et coloré, notre grand savant des couleurs. Bonjour Michel Pastoureau.
Bonjour.
Historien, directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, vous publiez au Seuil Jaune, le dernier volet d'une série consacrée au bleu, puis au noir, au vert et au rouge. En fait, vous terminez par la couleur la moins populaire.
Oui, ça n'est pas la raison. C'est parce que les documents d'histoire ne sont pas très bavards pendant assez longtemps sur la couleur jaune. Donc je l'ai mise de côté avec l'idée de d'y revenir, mais donc c'est dans mon travail qu'elle est venue en dernier.
Mais c'est vrai que quand on demande, pas seulement un Français, un Européen, quelle est votre couleur préférée, le jaune arrive toujours en dernier.
Oui, parmi les 6 couleurs de base, c'est la moins aimée, le bleu écrase tout, une personne sur deux en Europe occidentale, puis le vert, puis le rouge, puis le noir, puis le blanc, et enfin le jaune, en queue de peloton, si je puis dire. Et depuis qu'on a des enquêtes d'opinion, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle, les résultats sont toujours les mêmes, ça ne change pas, le jaune est bon dernier.
Le jaune reste tout de même accroché à quelques symboles, le maillot jaune du Tour de France, la balle jaune du tennis.
Oui, alors le sport a fait pas mal pour revaloriser le jaune qui était tombé très très bas au milieu du 19e siècle. Sur les terrains de sport, les maillots sont d'abord blanc et noir, puis blanc, noir, rouge, bleu. Et avant la Première Guerre mondiale, le vert et le jaune font leur apparition. Mais évidemment, c'est le Tour de France qui donne ses lettres de noblesse à la couleur jaune. 1919, en plein Tour de France, le patron du Tour, Henri Desgranges, a l'idée d'habiller d'une couleur spécifique le premier du classement général. C'est une opération à la fois publicitaire, le maillot qui organise le Tour de France, le journal Loto, est imprimé sur un papier jaunasse. Et c'est un coup de génie parce que ça accentue la popularité du Tour. Mais ça crée aussi l'expression maillot jaune qui sort du sport et qui s'étend à d'autres domaines. Aujourd'hui, on est maillot jaune dans la pétrochimie, dans les compagnies d'assurance, etc.
Ce qui est passionnant, ce que vous montrez, Michel Pastoureau, c'est que dès le 19e siècle, le jaune est une couleur de discrimination. Pour les prostituées russes, pour les bannières français qui ont eu un passeport jaune comme Jean Valjean dans Les Misérables. Il y a vraiment quelque chose de spécifique qui met le jaune en marge.
Oui, le jaune, c'est une marque, ça se voit. Alors ça peut être une marque relativement neutre, comme dans les panneaux du code de la route ou ce genre de signaux. Mais c'est souvent une marque infamante, une marque discriminatoire, une marque qui souille même parfois. L'étoile jaune a des racines anciennes, hein. On en trouve trace dès la fin du Moyen-Âge, sous des formes assez variées, mais avec toujours cette couleur jaune dépréciative.
Et sur les origines de l'étoile juive, la filiation, le lien n'est pas absolument établi avec ce qui pouvait se pratiquer dans les années 1200 et quelques. Hein.
Non, il y a des échos, il y a des trous de l'information, mais c'est vrai qu'à la fin du Moyen-Âge, dans un certain nombre de villes et de régions d'Europe occidentale, les communautés juives doivent porter sur le vêtement un signe distinctif. Alors la forme de ce signe textile varie. Le cercle est peut-être le plus fréquent.
La rouelle.
La rouelle, voilà. Et les couleurs varient aussi. Il y a blanc, il y a rouge et blanc, il y a blanc et noir, mais surtout il y a jaune. Ça, c'est la couleur la plus fréquente. Et donc, il y a un écho, évidemment, à l'étoile jaune de sinistre mémoire.
Le produit de tout cela, de cette couleur mal aimée, c'est qu'on a aujourd'hui assez peu de jaune dans notre vie quotidienne, dans notre imaginaire et dans nos chansons, à part un célèbre sous-marin jaune, celui des Beatles, et puis une magnifique et mélancolique valse jaune signée Boris Vian et chantée par Mouloudji.
Il y a du soleil dans la rue, moi j'aime bien le soleil, mais j'aime pas les gens, et je reste caché tout le temps, à l'abri des volets d'acier noir. Il y a du soleil dans la rue, moi j'aime bien la rue, mais quand elle s'endort, et j'attends que le jour soit mort, et je vais rêver sur les trottoirs. Et le soleil de l'autre côté du monde danse une valse blonde avec la terre ronde, 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 ronde. Le soleil rayonnant comme un faune danse une valse jaune pour ceux de l'autre ciel.
La valse jaune de Boris Vian, chantée par Mouloudji sur une musique de Marguerite Monod. C'est un jaune amer et misanthrope, mais c'est aussi le jaune du soleil, Michel Pastoureau.
Bien sûr, toutes les couleurs sont ambivalentes, quelle que soit l'époque et la société. Chacune a ses bons et ses mauvais aspects. Même le jaune a des bons aspects.
On dit c'est le miel, c'est l'or, c'est le safran.
C'est le soleil, c'est la lumière, c'est parfois la richesse et la prospérité, c'est la chaleur. Dans les sociétés anciennes, le bon jaune l'emporte sur le mauvais jaune. C'est vraiment le Moyen-Âge chrétien qui a dévalorisé la couleur jaune. Mais les Grecs, les Romains, les peuples du Proche-Orient antique aiment le jaune, s'habillent en jaune et voient en lui une couleur bénéfique et bienveillante.
Est-ce que vous savez pourquoi on dit rire jaune ?
Oui, c'est une forme d'hypocrisie. Le jaune est la couleur de l'hypocrisie, de la tromperie, du faux-semblant. Donc quand on rit jaune, on fait semblant de rire, mais en fait on n'a pas du tout envie de rire. Donc c'est cette idée-là qui est derrière la couleur.
C'est le rire hypocrite. Est-ce que ces représentations pourraient changer un jour, Michel Pastoureau ? Est-ce qu'un jour, au classement des couleurs, pour reprendre ce que vous avez souligné tout à l'heure, le jaune pourrait reprendre le maillot jaune ?
Je sais qu'en matière de symbolique des couleurs, les choses évoluent lentement. Elles changent, mais elles évoluent lentement, vraiment très lentement. En outre, elles sont assez étroitement culturelles. On ne peut pas généraliser. Alors, est-ce que la mondialisation va faire une sorte de fusion ? En tout cas, ce qui est certain, à plus court terme, c'est que le jaune occupe une place tellement faible dans le spectacle de la rue, dans notre vie quotidienne, que si j'étais un styliste ou un designer, j'investirais dans le jaune. Il y a vraiment une place à prendre là. Le jaune est beaucoup trop discret dans les sociétés contemporaines, spécialement dans les grandes villes occidentales. Il ne peut que obtenir une place un peu plus grande dans les années qui viennent.
Pour vous faire remarquer, choisissez le jaune, c'est ça en quelque sorte.
C'est un peu ça, ça fait un tel écart que si un homme entrait dans ce studio entièrement vêtu de jaune, on le remarquerait très fortement.
Jaune, histoire d'une couleur, un beau livre relié au seuil. Merci beaucoup Michel Pastoureau.
Merci.
Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.